commençons sans plus attendre et sans quitter Jacob et Lordi la saison des débats du comptoir du cinéma. 2024, nous voilà. Et nous voilà en nous penchant sur Priscilla, le film que Sofia Coppola consacre à l'épouse d'Elvis Presley, Priscilla Presley, donc rien d'anormal jusqu'ici. Biopic qu'elle adapte des mémoires de cette dernière, sortie dans les années 80. On suit l'évolution de la jeune fille, plus encore que jeune femme, hein, elle a quand même 14 ans, à partir de sa rencontre avec Elvis, qui en a 10 de plus, dans l'Allemagne occupée par les États-Unis, où lui stationne pour finir son service militaire, et où elle a suivi sa mère et son beau-père, le capitaine Beaulieu. Il a beau donc avoir 10 ans de plus qu'elle, c'est une idylle qui naît entre eux, mais donc Coppola filme bien toutes les sens toxiques en porte-à-faux avec le récit médiatique qui en avait pu être fait à l'époque. En fait, la Priscilla incarnée par Kaylee Spaeny, si elle suit la réalité de sa relation avec Elvis, que joue très bien Jacob Elordi, elle devient plutôt un personnage de Sofia Coppola qu'un personnage historique. C'est une adolescente qui est cousine quelque part des sœurs Lisbonne de Virgin Suicides ou de Marie-Antoinette, prisonnière d'un cadre pâle, doux, prison dorée par moments, mais prison quand même. On suit bien son emprisonnement, en effet, son enfermement, petit à petit, dans l'immense maison d'Elvis à Graceland. On la voit prendre les amphétamines qu'il lui donne, et on est les spectateurs de sa séparation de ses parents jusqu'à son divorce en 1973. Elle a 28 ans. C'est un film que vous aurez, j'espère, aimé, parce qu'il m'a, pour ma part, convaincu à la fois dans la construction de son héroïne et dans les choix esthétiques faits par Sofia Coppola, choix esthétiques auxquels je suis de toute façon sensible d'une façon générale. Les interprétations sont toutes très convaincante à mon sens. Spaeny a quand même reçu la coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine à Venise l'an passé. Puis parce que, effectivement, c'est un film féministe qui propose un parcours d'émancipation qu'on voit assez peu de cette façon-là et qui fait de Priscilla, d'une façon générale, un film pas fondamentalement hostile à Elvis, pour en reparler, mais plutôt fondamentalement favorable à son héroïne. Mais quel est votre avis ? On commence avec Lucie.
Oui, alors on retrouve ici un sujet cher à la cinéaste et commun à tous ses films, à savoir l'ennui au féminin, qui se décline sous une musique vintage, souvent rock d'ailleurs, et qui épouse un rythme nonchalant, celui de ses héroïnes. Et donc Priscilla, effectivement, s'y prêtait bien. Alors j'ai trouvé que c'était un joli film, délicat sans ethnie, mais aussi, conformément à son héroïne en un sens, à la fois mature et immature, arrivant à épouser le point de vue de l'adolescente amoureuse sans délaisser celui du ou de l'aspect actrice post-MeToo. Et de fait, c'est un film qui s'inscrit en plein dans la relecture des mythes masculins à la lumière de leur revers féminin, ses fidèles suivantes de l'ombre. On a eu l'an dernier La femme de Tchaïkovski, notamment, qui était au moins 10 fois plus dark, et La Joséphine de Napoléon, de Ridley Scott aussi. Mais bon, sans avoir été transcendée, je salue l'esprit du film, après Elvis notamment, et je trouve qu'il prouve qu'on peut raconter quelque chose, même à travers le personnage qui a l'air d'être le moins intéressant de l'histoire, celui qui, pour le coup, ne fait pas l'objet des biographies et autres. Et en tout cas, je retiendrai, même si j'ai pas beaucoup à en dire aujourd'hui, au moins les performances et l'entrée très convaincante de Kaylee Spaeny à Hollywood, mais aussi la consécration de Jacob Elordi qui, je trouve, ici montre un peu plus ses talents que dans Le tapageur Saltburn, donc il est aussi à l'affiche. Voilà.
Merci Nathan.
Écoute, moi je suis assez d'accord avec toi Lucie, dans le sens où je suis pas sûr que j'en aurais énormément de choses à dire, que j'aurais énormément de choses à en dire non plus, dans la mesure où j'ai passé un vraiment bon moment, enfin j'ai passé une bonne séance, j'ai beaucoup aimé le film en le regardant, c'est un très beau film esthétiquement, enfin les couleurs pastel, la lumière éthérée, c'est un film qui est, je trouve... dirigé en demi-ton et ce qui est très réussi avec la bande originale aussi qui est globalement excellente. Il y a notamment Crimson and Clover qui est ma chanson préférée, donc j'étais aux anges. Voilà, je sais pas si, enfin en sortant, je me suis demandé si c'était peut-être pas un film un peu anecdotique au-delà de cette belle palette de couleurs et de la performance des acteurs, parce que effectivement. Alors, Jacob Elordi est c'est vrai, exceptionnel. Moi, je l'ai trouvé vraiment très bon. Je trouvais qu'il campait un meilleur Elvis que Austin Butler dans le biopic de Baz Luhrmann, même si c'est deux films extrêmement différents à plein d'égards, donc ça avance peut-être pas grand-chose de les comparer, mais ne serait-ce que dans l'imitation, je trouve qu'il y a quelque chose de très naturel qui est assez saisissant dans son interprétation et qui tient pas, enfin qui est pas de l'ordre de l'imitation non plus, quoi. Et puis, évidemment, Kaylee Spaeny, elle est formidable, j'ai trouvé... Enfin, je trouve ça trop bien que ce genre d'interprétation et de performance soit saluée à la Mostra de Venise. Et d'ailleurs, c'est souvent le cas à la Mostra. Je trouve que les prix d'interprétation sont souvent très cohérents et très justes. C'est jamais des interprétations tapageuses ou quoi, mais très subtiles. Là, elle est toute en nuances, elle est hyper juste. Et voilà, j'ai trouvé ça très, très réussi sur ce plan-là. Et je pense que c'est ce qui m'a fait autant rentrer dans le film. Voilà, ouais, effectivement, il y a cette espèce de demi-ton en permanence jusqu'à des moments où bah, où il y a des explosions, quoi. Et je trouve que ce décalage, cet équilibre fonctionne assez bien. Voilà.
Je vous rejoins sur les louanges esthétiques qu'on peut faire au film parce qu'il est effectivement très beau. Mais enfin, dit personnage, j'ai vraiment l'impression qu'il est plus qu'anecdotique, on va dire vraiment. Et rien que dans ses choix esthétiques qui sont à chaque fois des partis pris réels qui ne sont pas là que pour la beauté de la forme, on va dire. Par exemple, si on prend le plan d'ouverture, il va agir en quelque sorte comme une entrée dans un monde magique, puisqu'on la voit marcher sur un sol qui est entièrement tapissé en rose. On sait qu'on va rentrer dans une prison dorée qui est en quelque sorte la maison de rêve de Barbie, mais plutôt son envers cauchemardesque. C'est-à-dire qu'on a bien un catalogue d'accessoires, hein, on a Barbie et sa petite voiture, Barbie et son petit revolver, Barbie et son bébé, mais ils sont à chaque fois filmés comme les moyens de son oppression et de son enfermement. Elle est toujours, je trouve, capturée littéralement dans l'écran, dans des espaces confinés, que ce soit des petites pièces filmées dans un cadre extrêmement serré, que ce soit une fenêtre de voiture, etc. Et en fait, le très beau jeu sur les couleurs que vous avez relevé, tous les deux, fait qu'elle s'intègre en fait petit à petit dans la propriété d'Elvis à Graceland une fois qu'elle y arrive, pour devenir une propriété elle-même. Il y a des moments où quand elle est seule dans ce salon immense et tout, elle a des robes d'une couleur pastel et tout, et elle s'intègre intégralement comme un meuble en fait, quasiment. Et en cela, c'est... comment dire, ça amène quelque chose de, cher à la réalisatrice, tu le disais Lucie, dans cette portrait de cette adolescente mélancolique, donc enfermée dans des pièces au ton pastel, au blanc saturé, qui est vraiment l'héritière de Marie-Antoinette ou des Virgin Suicides, parce que du coup j'ai regardé ce film pour la première fois ce week-end, et c'est frappant comme il y a des plans qui semblent être juste, enfin, a posteriori, des plans de Priscilla qui semblent être vraiment juste tirés de ce film, ne serait-ce que la moquette sur laquelle elle marche, c'est la même chez les Sœurs Lisbonne. Et ce visage triste, enfermé, qui doit apprendre les codes d'une prison dorée et à graviter autour de la figure régnante qu'est celle d'Elvis, comme était celle de Louis XVI dans Marie-Antoinette. Et en même temps, un roi qui a ses failles, comme Louis XVI, en l'occurrence. Et puis, on a de traiter des parallèles intéressants qui sont dressés presque de façon explicite entre mettons Marie-Antoinette et Priscilla, avec la laque par exemple qui devient une espèce de nouvelle perruque ou le choix des tenues par exemple que porte Priscilla.
Oui, alors je suis assez d'accord que tout l'esthétique sert bien son propos et souvent du coup ça va pas passer par du dialogue, elle a un jeu hyper internalisé, nuancé. Et donc, ce que tu dis là sur le fait qu'on ressent la cage dans à peu près tous les éléments qui sont constitutifs de son personnage, c'est vrai. Puis je trouve aussi que ce qui est vraiment cinégénique, et ça se voit que c'est ça qui lui parle aussi comme thème visuel, c'est ce truc d'être seul parmi les autres, je trouve qu'on ressent bien dans le film. Dès qu'il y a des groupes, des potes d'Elvis, ou alors la famille, etc., ou alors que ce soit les caméras, etc., c'est toujours quelqu'un qui est seul, seul dans la foule, seul... même si la pièce est pleine, et ça passe surtout par des gros plans sur elle ou ce genre de choses, mais en tout cas, je trouve que c'était vraiment un des aspects les plus beaux du film et les plus réussis. Et pour le coup, par rapport à des films comme Virginia Suicide, Marie-Antoinette, The Bling Ring, qui sont films plus des groupes, là je trouve qu'il y avait vraiment matière à vraiment plus exploiter l'ennui et la mélancolie solitaire, avec tous ces petits rituels et ces lieux qu'on finit par connaître, même si c'est jamais vraiment les siens. Et donc, ouais, je trouve qu'il y avait une vraie poésie au film, et qu'en tout cas, c'était tout à fait propice au style de Coppola.
Ouais, je suis d'accord qu'il y a quelque chose qui marche super bien sur le point de vue quoi de Priscilla qui est rendu vraiment limpide. Enfin, c'est vraiment, on a vraiment le focalisation sur elle et on voit tout à travers elle, mais sans que ça paraisse. Enfin, j'ai pas réussi à identifier exactement ce qui faisait que ça marchait aussi bien dans le film, mais parce que c'est vrai que il n'y a pas non plus l'impression qu'il y a une abondance de gros plans sur elle, que ce soit forcé ou quoi. Donc il y a vraiment une espèce d'équilibre dans la mise en scène de Sofia Coppola qui est très très réussie. Et ouais, tout en par touche quoi, une espèce de pointillisme un peu, ça passe par cette introduction que tu as soulignée avec plusieurs gros plans sur des détails de la maison, comme des vignettes qui construisent petit à petit cette espèce de maison de poupée à la Ibsen. Et globalement, je suis complètement d'accord que c'est hyper subtil quoi, dans la manière dont c'est traité. Le film n'est pas du tout caricatural ou manichéen. Dans le récit biographique ou dans la représentation de l'intime et de l'emprise, je trouve. Ça passe donc par le jeu des deux acteurs et actrices qui sont excellents, mais aussi ouais, par l'écriture, quoi. Au début, on est vraiment. Enfin, moi, je souriais bêtement devant le film pendant leurs premières scènes ensemble, parce qu'il y a une espèce de conte de fées au début, et puis qui petit à petit devient un peu machiste, et puis de plus en plus éprouvant à regarder carrément. Ouais, j'ai trouvé ça extrêmement juste et précis quoi dans la mise en scène et l'écriture.
Ouais, je suis vraiment d'accord parce que, comment dire, c'est le film est vraiment un très bon film pour comprendre les mécanismes d'emprise, je trouve, et sans didactisme, mais ça, enfin, on voit clairement l'évolution de la situation, les parents convaincus, le rôle de l'argent, de la réputation, l'exclusion des autres quand ils lui disent, non, non, on veut que tu amènes personne ici, les ordres donnés, se conformer à un rôle. Mais effectivement, c'est pas du tout, enfin, c'est pas du tout. Un conte de fées au sens où ce serait écrit et tout à coup la princesse se rendit compte que non, c'est en fait nous le spectateur et effectivement il y a presque cette magie dans la mise en scène d'adopter le point de vue de Priscilla sans jamais que ce soit avec d'énormes sabots, mais d'apparition progressivement d'un côté malsain et dérangeant avec des moments qui sont en fait glauque hein, aussi, il y a vraiment des
Ouais,
moments qui m'ont mis
complètement.
mal à l'aise. Déjà, alors là, c'est aussi le casting qui veut ça, mais la différence de taille entre les deux acteurs qui manifestent physiquement les 10 ans qui les séparent. Enfin, j'ai regardé, c'est un an dans la vraie vie, mais enfin, on croit tout à fait qu'elle a 14 ans au début. Hein,
Non, complètement.
et puis, ouais, dans ces moments glauques, il y a le côté, genre, je sais pas, elle fait ses devoirs pendant que les autres sont en train de faire la fête en dessous. Elle prend des amphithéâtres pour aller en cours quand même. Et ça, c'est, enfin, ça dit, ça a l'air de marcher. Hein, donc, mais ce sont en fait des subtils rappels de son âge, de sa condition, mais toujours, voilà, c'est ça, avec nuance, avec subtilité, parce que la question de l'âge arrive effectivement assez tard ou assez peu, mais elle est suffisamment là pour qu'on se dise ouais pas ouf la team quand elle dit I'll have to ask my parents pour se voir etc. Pour autant, si évidemment Elvis tu le disais devient progressivement macho etc. et cherche à avoir le contrôle sur Priscilla, je dirais pas que le film le peint comme un prédateur. C'est-à-dire que on ne le voit jamais, on ne le voit jamais abuser d'elle sexuellement. Une fois, il y a une bataille d'oreiller qui tourne mal et il la gifle parce qu'il n'est pas content qu'elle prenne l'avantage, mais c'est plus son ego qui est blessé. C'est-à-dire que dans l'ensemble, c'est plus un gamin pourri gâté qu'autre chose. Alors, je sais pas du tout comment il
Elle est
était.
droguée à ce moment-là, surtout,
Oui, aussi, ouais.
cette question-là.
Oui, effectivement, mais il
Ce
est.
qu'elle se fout
On le voit aussi,
complètement.
ouais.
Ouais,
Mais
à la
voilà,
fin
enfin, il est
aussi, la
perdu
dernière
lui-même,
scène dans sa
quoi.
chambre d'hôtel où pareil, il est complètement bourré.
Ouais, voilà, c'est ça. Enfin, je veux dire, le regard qui est, enfin, du female gaze, en fait, vraiment, qui est celui qui est porté avec Priscilla, n'est pas. Enfin, il est vraiment intégralement favorable à Priscilla, quitte à occulter. Enfin, il s'arrête avant qu'elle ne rejoigne l'église de Scientologie, etc. Mais le film ne hait pas Elvis. C'est pas un, voilà, c'est et Priscilla Presley elle-même le dit hein, qu'elle a jamais vraiment haï Elvis et il y a cette fin maybe another place another time ils sont assez mais il va vraiment se focaliser sur ouais, l'émancipation et l'accession à son choix, à son désir de cette femme plutôt qu'effectivement entrer dans un antagonisme avec le personnage d'Elvis qui mais on revient encore sur ce point de nuance en fait.
Et moi, par contre, contrairement à vous, le malaise, je trouve qu'on l'a tout de suite, hein, c'est pas progressif. Enfin, vraiment, dès le début.
Ah oui, non, non, le fait qu'il ait 14 ans, moi, ça m'a.
Oui, non,
C'est
mais puis
hyper gênant,
même
hein,
la
pour
façon dont
moi,
c'est construit, même lui, ce
franchement.
qu'il lui dit, viens dans ma chambre, ah, l'Amérique me manque, même s'il fait rien à chaque fois, enfin, je suis cringy à tous les instants. Mais par contre, effectivement, ça reste subtil parce qu'on a quand même envie d'être avec Priscilla dans cette histoire d'amour. On est quand même en mode, oh non, elle est amoureuse de laisser-la vivre son rêve, quoi. Et
Ouais.
je trouve on est ému pour elle. Mais du même coup, on
Ouais,
est
ça,
clairement
c'est l'ambiguïté du
mal
film.
à l'aise par tout le temps. Enfin, mais oui, enfin, j'ai même écouté les entretiens de Sofia Coppola qui disait le film est en effet pas à charge. Il montre les combats d'Elvis aussi, et c'est vrai qu'on suit un peu en filigrane sa carrière et même ce qu'il traverse et bah, le fait qu'il prend aussi de la drogue bah, pour tenir le rythme de cette vie-là et que il la protège à des petits moments aussi de ça, même si enfin il lui donne des amphétamines très vite, hein. Mais en tout cas, enfin, tout est effectivement raconté avec nuance. C'est quand même une force du film parce qu'on pourrait, voilà, ça pourrait être le versant critique, mais disons ça pourrait en faire pâtir le point de vue de Priscilla aussi parce qu'on a besoin d'être aussi dans son empathie, dans l'image idéale qu'elle a de lui et de progressivement, comme vous dites, la faire déliter un peu, mais. Mais en tout cas, voilà, le dosage était quand même suffisamment bien fait pour que je me sente concernée par les deux côtés.
Ouais, et en plus, bah, à ce propos aussi, je disais tout à l'heure qu'en sortant, je me demandais si le film n'était pas un peu anecdotique quand je suis sorti de la séance. Et puis, oui, j'avais pas fini ce que je voulais dire, mais en gros, après ça, j'ai regardé un petit peu effectivement des interviews de Sofia Coppola par rapport au film, etc. Et j'ai été enfin, assez choqué de voir dans les commentaires de ces interviews, il y a vraiment des armées de fanboys d'Elvis qui sont, enfin, qui sortent les fourches pour attaquer le film. Et ça, je me suis dit que finalement, bah, c'était peut-être pas si anecdotique et que finalement, bah, ce film était important et qu'il est, encore une fois, enfin, si même avec le maximum de nuances qu'elle peut mettre et toute la subtilité qu'elle utilise tant dans l'écriture, dans le jeu, dans la mise en scène, etc., et qui fait, je trouve, la qualité du film, si même malgré ça, ça provoque l'ire à ce point de la horde de fanboys d'Elvis, c'est que bah, finalement, c'est un bon film, quoi. Enfin, c'est vraiment un très bon film, je trouve. Et puis, oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, moi, si j'avais juste quelques petits bémols, c'est vraiment des détails, hein. Je pense que peut-être si vous avez des bémols plus importants, vous les direz, mais moi, il y a juste la scène où ils sont tous les deux, ils prennent tous les deux du LSD, que j'ai trouvé pas incroyable. Je trouve que, justement, elle est très stylisée et bah, ça marche pas forcément. Enfin, ça détonne un peu par rapport au reste du film et que ça marche pas forcément très bien. Et autre chose, mais ça c'est moi et mes névroses, je déteste les fondus au noir au cinéma, et là il y en a vraiment beaucoup quand
Mais
même.
ah ouais, mais j'ai trouvé que justement ils étaient pas mal utilisés.
Bah,
Parce que j'aime pas trop ça.
ça m'a moins
Mais
choqué que dans d'autres films, mais c'est vrai que j'ai
non
quand même
plus.
du mal.
Mais
Et
ouais, ok.
puis oui, sur la fin, tu disais qu'on la voit pas rejoindre l'église de Scientologie, et c'est pour une raison très simple, c'est qu'en fait je trouve que ce qui est très juste aussi, et ça rejoint tout ce qu'on disait sur. Notamment ce que tu disais sur la prison, etc., c'est que le film, enfin, le dernier plan se coupe quasiment à l'instant où elle passe la porte de Graceland lorsqu'elle part pour la dernière fois. Ce qui montre que, voilà, même en termes de structure, le film se tient super bien et hyper, hyper juste de bout en bout, j'ai trouvé.
Et puis, alors moi, pour revenir sur ce que tu disais par rapport même à l'importance de déconstruire un petit peu le mythe d'Elvis, etc., il y a un truc qui m'a paru intéressant dans le coup, dans son écriture au film. Bon, bien sûr, il va bien plus loin que l'industrie musicale, etc., mais il la perd jamais de vue. Il perd jamais, enfin, on a cette espèce de figure du colonel qui était donc, je pense, le personnage de Tom Hanks dans. Enfin,
Ouais, c'est ça.
j'ai pas vu le film de Baz Luhrmann, mais. Donc, de son agent, mais qui est. Une entité absente et présente partout, qui est une autre forme d'ailleurs d'emprise sur Elvis. Mais là, oui, là où je voulais en venir dans l'idée de déconstruction un peu aussi et tout, c'est qu'il y a du film comme un plaisir et une étrange façon de déconstruire un peu les chansons pop. C'est-à-dire que quand Elvis l'appelle Baby, ce qui est une apostrophe très courante dans une chanson rock ou pop, c'est hyper bizarre parce que oui, à 14, 15 ans, c'est par rapport à lui, je veux dire surtout, à un bébé. Ou quand il lui dit « You're my little girl, you're the only one I've ever loved », c'est des topos.
C'est super bien, tu devrais jouer dans... tu devrais jouer lui.
Très bien, je me teins les cheveux en noir et je me reconvertis encore en autre chose à la fin de l'année. Bref, non, oui, c'est des mots en fait qui du coup ne sont... Enfin, ils deviennent tout sauf vain. You're my little girl, tout ça, c'est des trucs qu'on entend dans des chansons rock et tout. Et là, ça devient... Ça montre en fait tout le potentiel qu'ils ont de psychologiquement de possession de la personne à qui l'on parle, et en l'occurrence du personnage de Priscilla, et ce qui augmente, je pense, aussi notre empathie à son égard qu'on soulignait.
Après, le baby, c'est tellement emblématique des années 60. Enfin,
oui, bien sûr.
Mais c'est vrai que oui, clairement, du coup, ça prend un autre sens ici. Et pour le coup, ça rejoint aussi quelque chose que revendique la cinéaste, qui est d'avoir, à travers Priscilla, d'avoir essayé de faire un portrait justement de la femme des années 60. Mais en général, ce que je trouve qu'elle arrive plutôt bien à faire, indépendamment du fait qu'on est dans un Minute Star.
Oui, parce qu'on voit assez peu les concerts.
Oui, voilà, mais en fait, on voit comment ça va vite, qu'on peut se marier jeune, être amoureux, qu'après, forcément, on déchante ensuite, qu'il y a des relations possessives, d'abus, qu'il y a plein de choses comme ça, qu'elle dépend totalement financière de lui, qu'elle n'a pas sa vie, qu'elle est à son service en temps et en heure. Et voilà qu'en dehors, elle peut rien faire et pas avoir une carrière et tout, parce que puis il y a toute la idéologie un peu chrétienne texane, ou je sais pas, un peu derrière, qui est tout le temps là. Mais voilà. Et oui, bon, pour ce qui est des bémols du film, moi j'ai plus de mal avec la fin. Enfin, en général, je trouve que on a un montage alterné Elvis, Priscilla, on a l'impression d'être dans un feuilleton télé. Enfin, ça perd de sa pas sobriété, mais disons son focus qui marchait bien jusque là. Ça devient hyper elliptique, et c'est l'espèce de trajet d'émancipation, puisqu'elle fait de la natation en Californie, qu'elle reste avec sa fille, qu'elle suit des cours de judo et de danse. Mais ça, ça va très vite, et du coup, j'avais l'impression de regarder une série télé un peu cheap, je sais pas. Enfin, je trouvais que c'était un peu dommage, et après, il y a une vague confrontation dans une chambre. Et pour le coup, ça perdait un peu la subtilité que ça avait au début. Et puis oui, bien sûr, ça a été les passages que ça veut de la vie de Priscilla. Et on sait qu'à ce moment-là, après la naissance de sa fille, elle l'a trompé, Elvis notamment. Enfin, c'est pas des choses qui sont racontées.
Avec le prof de
karaté, d'ailleurs. Voilà. Mais du coup, c'est un peu suggéré. Enfin, on le sent un truc de séduction, et le fait qu'elle pense à elle à ce moment-là et qu'elle commence à vivre sa vie. Mais bon, je trouvais que tout était un peu rushé. Donc moi, j'avais pas vraiment... Je ne sortais pas totalement satisfaite de cette victoire de Priscilla. Par contre, ce qui est très joli, c'est ce plan où elle est quand même en train de pleurer, même quand elle prend la décision, parce qu'on voit aussi ce que ça coûte. Et l'histoire, nous, on l'a eu. On a eu toute l'histoire d'amour. On n'a pas eu trop son trajet d'émancipation sur la fin. Mais on comprend ce que ça coûte et pourquoi elle le fait.
Moi, j'avoue que la fin... Bon, elle est effectivement moins forte que le reste du film, mais elle m'a convaincu parce que il y a un monsieur qui s'est levé au moment où le générique commence. C'était même pas commencé, en disant une merde absolue, d'une banalité. Voilà, donc juste pour emmerder ce monsieur qui était là dans la salle, je trouverais la fin brillante, la fin de Priscilla de Sofia Coppola, donc en salle depuis le 3 janvier, et aller au cinéma pour aller le voir pendant qu'il s'y trouve.